Alors, dans ce texte, il y a aussi une grande hétérogénéité. Il y a plusieurs strates rédactionnelles qui se mêlent dans l'évangile selon Jean. C'est comme un millefeuille, hein, et on peut penser qu'une sorte, peut-être une synthèse, pour reprendre les termes de Christian Fou, a été cherchée entre différentes orientations. Mais moi, je me contenterai d'explorer ce qui me semble relever de l'orientation gnostique. C'est pour cela que j'ai parlé de traces gnostiques. Dans le flyer, il est dit « éléments gnostiques ». Moi, j'avais dit « traces gnostiques » dans l'évangile selon Jean. Première trace gnostique, le refus de l'eschatologie. Voilà. Eschatologie, hein, vient de « taeschata », c'est-à-dire les fins dernières. Alors, dans les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, hein, l'eschatologie est constamment présente. Par exemple, Matthieu parle de la moisson eschatologique, c'est-à-dire du tri qui sera fait lors du jugement dernier entre les justes et les pécheurs. Le jugement dernier sera consécutif à la nouvelle venue en gloire du Messie, hein, que l'on appelle la parousie, P-A-R-O-U-S-I-E. Hein. Voilà. Alors, ce jugement dernier s'inspire du livre de Daniel, je l'ai dit déjà, le Fils de l'homme venant sur les deux nuées du ciel, et c'est un scénario que vous trouvez dans le Credo de Nicée, par exemple, et de nouveau, il viendra dans la gloire juger vivants et morts. Je sais que les protestants ne parlent que du symbole des apôtres, hein, et ne citent pas Nicée. Les orthodoxes ne parlent que du symbole de Nicée, et les catholiques utilisent les deux, bien qu'ils contiennent deux scénarios opposés, hein, comme je l'ai montré dans mon livre « Les deux visages de Dieu hein. ». C'est un livre que vous avez au fond, il est épuisé maintenant, il y a encore quelques exemplaires. Donc, les protestants ont raison de prendre apôtre, et ils sont cohérents. Les catholiques aussi de prendre Nicée, et seulement Nicée. Mais unir les deux, alors qu'ils appartiennent à deux traditions, deux scénarios différents, hein. Apôtre, c'est un homme qui devient Dieu, et Nicée, c'est un Dieu qui devient homme, qui s'incarne. Vous voyez, c'est deux scénarios totalement différents. Hein. Donc voilà, quel crédit pour le credo, au sens unique. Bon. Alors, ce jugement dernier est inspiré aussi du jour du Seigneur, dans le livre de Sophonie, que l'on trouve dans le Diasyré. Et alors, il y a eu, à partir de ce jugement dernier, toute une pédagogie de la peur. Une pédagogie de la peur qui a marqué très longtemps tout notre christianisme. Encore aujourd'hui, sur les tombes catholiques, je vous répète, je viens d'un milieu catholique. Hein, maintenant, je suis devenu agnostique, mais ou chercheur spirituel, si vous voulez, mais mon origine est catholique. Eh bien, dans les tombes catholiques, on a souvent l'inscription « Priez pour lui ». On a l'acronyme PPL, hein, « Priez pour lui ». Alors, moi, je me dis que s'il y a cette expression, « Priez pour lui », ça veut dire qu'il s'agit de l'aider par nos prières quand il va passer en jugement, le mort. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il aurait seulement pensé à lui, etc. Mais prier pour, c'est intercéder pour. Hein. Voilà. Alors, vous me direz si ça existe chez les protestants. Je n'en sais rien. Hein. À vous de me le dire, si vous n'avez pas prié pour lui. Voilà. Donc, je vois que vous secouez la tête négativement. Eh bien, cette eschatologie qui nous a fait peur, moi, depuis le catéchisme, elle est totalement refusée dans l'évangile selon Jean. Voici un passage essentiel. Jean, chapitre 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voyez ? Donc, le texte dit bien « il a hein, », c'est un présent, « ekei », hein, bon, c'est pas « ekei », c'est pas « il aura », c'est « ekei », bon, « il a la vie éternelle », et le « il est passé », c'est un verbe grec au parfait, « metabebeken hein, », qui indique le résultat présent d'une action passée. Vous voyez ? Donc, « eis krisin ou kerketai », il ne vient pas dans la krisis, dans le jugement, à la « metabebeken », mais il est passé. Il n'y a pas de jugement. On écoute la parole, et puis on a la vie éternelle. « Ik et nunc », ici et maintenant. C'est pas dans un futur post-mortem que sont les enjeux. C'est ici et maintenant. Hein. Et c'est le propre de l'attitude gnostique. On n'attend pas le salut post-mortem, mais pour l'immédiat, une fois qu'on a opéré la métanoïa, c'est-à-dire le changement d'état d'esprit, qu'on traduit souvent par conversion, et souvent aussi est très mal par repentance, hein, métanoïa, je dirais pourquoi. Eh bien, la métanoïa, c'est la modification de l'état d'esprit, hein. Conversion, ça veut dire retournement. Bon, mais on peut faire cette conversion en soi-même. Alors, la vie éternelle, nous l'avons, c'est le cadeau, je dirais, c'est le présent du présent. Hein. Et cela exclut toute idée d'attente de nature eschatologique, vous voyez. Et quant à la mort, elle n'existe pas au sens littéral pour le disciple. Voici ce qu'on lit en Jean 8, 51. « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Vous voyez. Et dans l'évangile selon Thomas, le premier logion, c'est pareil, et il a dit, Jésus a dit, « Celui qui trouve l'interprétation de ses paroles ne goûtera pas de la mort. » Vous voyez. Bon. Alors, ou bien on nous promet un miracle, c'est-à-dire échapper à la mort physique, ou bien il faut entendre « mort » dans le sens spirituel. Je crois que c'est le deuxième cas qui importe. Hein. Dans celui qui chemine, comme le dit Jean, avec la lumière de la vie, ne peut mourir spirituellement. Puisqu'on lit en Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et la gnose ne dit pas autre chose, vous voyez. Alors, l'important pour la gnose, ce n'est pas qu'il y ait une vie après la mort, hein, mais c'est qu'il y ait une vie avant la mort. Voilà. Avant la mort, c'est-à-dire une vie qui mérite d'être appelée vie, que la vie avec un petit v soit vie avec un grand V, hein, une vie archétypale, une vie principielle, une vie qui corresponde à l'essentiel en nous, vous voyez, hein, alors que beaucoup de gens sont des morts vivants dès cette vie-ci. Alors on nous menace justement du jugement dernier, mais on oublie que l'important c'est de se redresser, de faire sa résilience dès maintenant. Premier point, le refus de l'eschatologie. Deuxième point, je vais vite parce que je sais que je risque de lasser l'attention, mais on reprendra ça dans les discussions si vous voulez. Deuxième point, le refus du monde. Alors le monde, en grec, cosmos, hein, il est toujours pris dans un sens totalement négatif dans l'évangile selon Jean. Hein, et très souvent, cette opposition s'accompagne de la distinction entre ceux qui sont d'en haut et ceux qui sont d'en bas. Hein. Par exemple, en Jean 8, 23, il leur dit, il s'adresse aux Juifs, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Vous voyez ? Bon, alors ce monde, c'est un lieu de tribulation. Hein. La tribulation, en grec, c'est thlipsis, hein. T-H-L-I-P-S-I-S. Hein. Et alors, il faut s'en évader. Voici ce que l'on lit en Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et encore, là, je viens de donner la traduction de second. Mais il y a une variante qui dit non pas « vous aurez, excété », mais « vous avez, équété ». Et cette variante est très intéressante. Si je lis « vous avez des tribulations », c'est dès maintenant. Hein. C'est pas seulement quand je serai mort, dit Jésus, etc. C'est dès maintenant que vous connaissez la tribulation dans ce monde. Hein. Eh bien, cette tribulation, c'est un enfer. Les cathares disaient qu'il n'y a aucun lieu de craindre l'enfer pour après la mort, parce que l'enfer, nous y sommes. Nous sommes dans l'enfer, hein, disaient les cathares. Hein. Donc, l'Église instituée nous serine toujours que le monde est bon, mais nous menace du châtiment après la mort, nous menace de l'enfer. Et les cathares ne se préoccupaient pas du tout, et les gnostiques non plus, ne se préoccupaient pas du tout de ce qu'il y a après la mort. L'essentiel, justement, c'est ce que l'on connaît. Et on connaît, la plupart du temps, la tribulation. Je répète, hein, toujours, ce n'est qu'un point de départ. Je vous dirai comment on peut conjurer ça après. Mais d'abord, elle existe. Et cette tribulation, alors, elle est exactement homologue à ce qu'on appelle en Orient le samsara. Alors, on parlait avec Daniel avant la conférence du roman de Hermann Hesse, Siddhartha, dont un chapitre est intitulé « Samsara ». Alors, Samsara, S-A-M-S-A-R-A, dans l'hindouisme, ce mot est utilisé pour parler du cycle des réincarnations, des vies et des morts, qui se suivent sans que l'adepte puisse atteindre la libération. La libération serait la lumière, ils appellent ça « moksha », la lumière. Et alors, dans l'hindouisme, c'est le yoga qui aide à sortir de ce cycle, du samsara. Dans le bouddhisme, le samsara, c'est aussi le cycle des existences conditionnées successives, soumises à la souffrance, à l'attachement et à l'ignorance. Ces états sont créés par le karma. Vous savez ce que c'est que le karma? C'est-à-dire que tout acte engendre des conséquences imprévisibles. Nous traînons derrière nous le poids de nos actes. Et il faut s'en délivrer, alors non pas par le yoga comme pour le dhyan, mais par le nirvana. Alors, pourquoi est-ce que le monde est ainsi dévalorisé? Eh bien, pour les gnostiques, le monde n'est pas l'œuvre de Dieu. Il est l'œuvre d'un dieu second, qu'ils appelaient Hystère. H-Y-S-T-E, accent grave, R-E. C'est-à-dire second, Hystéros, second. Et ce dieu second, il le nomme le démiurge, c'est-à-dire le fabricant du monde, si vous voulez. Les gnostiques avaient une très haute idée de Dieu. Et à regarder ce que est la création, on ne peut pas avoir l'idée, justement, d'un Dieu parfait et totalement bon. Donc, il faut que ce Dieu ait été créé par un autre Dieu, un Dieu second, par le fameux démiurge. Eh bien, l'évangile selon Jean parle toujours du prince de ce monde, je le cite, qu'il faut jeter dehors, par exemple, jeter dehors le prince de ce monde, Jean 12, 31, et qu'il faut juger, Jean 16, 11, voyez. Alors, ce prince de ce monde, c'est peut-être Satan ou le diable, mais ce pourrait être aussi ce fameux démiurge, faux dieu en quelque sorte. En tout cas, il y a là un dualisme qu'on pourrait comparer aussi à celui des manichéens. Vous avez entendu parler des manichéens, contre lesquels Augustin, par exemple, a lutté après avoir été tenté par eux. Alors, notez que l'intuition gnostique, selon laquelle le monde n'est pas bon, eh bien, elle a des failles, elle a des antécédents. Et là, il faut savoir lire les textes. Une faille rarement remarquée se trouve dans le récit de création du monde par Dieu, tel qu'il est rapporté dans la Genèse. Alors, Dieu crée la lumière. Alors, dans votre Bible, vous avez au premier jour. C'est faux. C'est au jour 1. En hébreu, c'est Yom Erad. Dans la Septante, c'est-à-dire la traduction qu'ont fait les 70 rabbins d'Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ, dans la Septante en grec, donc vous avez Emera Mia, Emera Mia. Et dans la Vulgate, Jérôme traduit très bien, Dies Unus. Parce qu'en grec, premier, ça se dirait proté, et en latin, ça se dirait primus. Si c'était premier jour, vous auriez eu Emera proté et Dies primus. Non. C'est le jour 1, jour de l'unité, c'est-à-dire le jour du plérum. Et là, le nombre est cardinal, comme on dit. Voilà. Alors, Dieu s'auto-félicite. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1, 4. Mais au deuxième jour, alors là, il faut bien dire le deuxième jour, un nombre ordinal, si vous voulez. Eh bien, figurez-vous que Dieu ne s'auto-félicite pas. Regardez bien votre Bible. Vous n'avez pas, Dieu vit que ce qu'il avait fait au deuxième jour était bon. Il reprend son auto-félicitation au troisième jour. Comme si au deuxième jour, il y avait un doute sur la bonté du processus. Oui. Non, mais il faut s'engouffrer dans ces failles. Les gnostiques s'y engouffraient. Dans le texte massorétique, c'est-à-dire le texte que pratiquent les juifs, vous avez toujours Yom Erad, jour 1. Alors, Pourquoi il n'y a pas cette auto-félicitation? Pourquoi on ne nous dit pas qu'au deuxième jour que c'est bon? Parce que l'unité initiale a été rompue. Et dès que s'est engendré un processus, le processus dans la Genèse est fait de séparations successives. On va séparer les éléments. On sépare le ciel et la terre ferme et les mers, etc. La plénitude ou le plérum du début a disparu. Cet état holistique, H-O-L, holistique, c'est-à-dire de totalité, a disparu. Et la magie du commencement s'est effacée. Et il y a donc dans ce texte que l'on nous dit comme totalement positif, des traces, des failles, des traces de catastrophes, je dirais, que les gnostiques, bien entendu, ont développé. Les gnostiques voyaient la création comme un œuf qui aurait été brisé, ou un miroir, si vous voulez, qui aurait été brisé en une infinité de petits morceaux, si vous voulez. Mais je répète, tout ça peut se réunir après, Bon, mais au début, c'est comme ça. Et alors, les poètes, vous savez que je suis un professeur de lettres, hein, par formation, les poètes ont bien exprimé ce côté catastrophique de la création et en quoi ils sont éminemment gnostiques. Alors je vais vous lire un passage, un peu de poésie, ça ne fait jamais de mal, hein, un passage d'un poème de Valéry qui s'appelle « Ébauche d'un serpent ». Hein. Le serpent dont il est question, c'est le serpent de la Genèse. Pour Paul Valéry, le serpent est un bienfaiteur de l'humanité, hein, un bienfaiteur. C'est une métaphore, si vous voulez, de l'intellect, le fait de comprendre. Et il y a eu une secte qui a été décrétée hérétique, que j'ai signalée dans mon petit lexique des hérésies, que l'on a appelé les ophites, qui adoraient le serpent. Ophite du grec office, qui veut dire serpent, vous voyez. Hein. Alors, voici ce que dit Valéry. D'abord, il s'adresse au soleil. Alors, c'est très, très beau. Hein. C'est beau, la poésie. Ça annule tout le reste. Hein. Le soleil, tu gardes le cœur de connaître que l'univers n'est qu'un défaut dans la pureté du non-être. Vous voyez, hein. Et puis, ô vanité, cause première, celui qui règne dans les cieux, d'une voix qui fut la lumière, ouvrit l'univers spacieux, comme là de son pur spectacle, Dieu lui-même a rompu l'obstacle de sa parfaite éternité, il se fit celui qui dissipe, en conséquence son principe, en étoile son unité. Vous voyez? Ben, c'est extraordinaire. Alors c'est complètement blasphématoire aux yeux de la doxa, du catéchisme, hein, bien entendu. Mais, si vous voulez, cette idée que Dieu se serait repenti de ce qu'il avait fait. Si profond fut votre malaise, que votre souffle sur la glaise fut un soupir de désespoir. Vous voyez, alors on est dans le blasphème, dans ce que vous voudrez, dans l'hérésie, mais ce n'est pas complètement faux, hein, pas complètement faux. Psychologiquement, ça s'explique. Toute œuvre de création, c'est une entrée dans le temps, et le temps altère inévitablement le principe. Le temps, c'est le masque mortuaire de l'intention initiale, hein, et tout déroulement temporel est meurtrier de la promesse qui caractérisait son début. Je vais prendre des exemples. Alors, je l'ai peut-être dit dans des conférences précédentes, excusez-moi si vous avez déjà entendu, je dis souvent que la vraie fête, c'est la veille de la fête. Le vrai dimanche, c'est le samedi soir, vous voyez, hein. Le meilleur moment en amour, a-t-on dit, c'est quand on monte l'escalier. Hein. Peut-être qu'il est meilleur dans les rêves que dans les draps, vous voyez. Hein. Donc, Oscar Wilde disait, les dieux nous punissent en exaucant nos vœux. Vous vous rendez compte, hein, en exaucant nos vœux. Moi, j'imagine toujours que l'on pourrait faire des vœux gnostiques. Au premier de l'an, hein, des vœux gnostiques, ça serait... je vous souhaite de ne pas obtenir cette année tout ce que vous désirez. Voilà. Alors imaginez la tête de ceux qui reçoivent ces vœux. Hein. On pourrait essayer. Parce que il faut toujours laisser à désirer, si vous voulez. Hein. Laisser à désirer. L'expression laisser à désirer, elle est péjorative en français. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Mais moi, je la vois dans un sens très positif. Laisser à désirer. Hein. Parce que une fois qu'une chose est finie, regardez par exemple des verbes comme achever, finir. Mais c'est terrible ça, hein. C'est terrible. On achève un blessé par exemple. On lui donne la mort. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est fini, c'est pas un éloge. Vous voyez? Donc tout ça, mener à son terme, etc. Voilà. C'est éminemment problématique. Alors bien entendu, je m'empresse de dire, là, vous allez dire, c'est un idéaliste ou bien c'est un pessimiste. Bon, bien entendu, il y a des moyens de conjurer un peu cette malédiction du déroulement temporel. Par exemple, par le retour au début, au commencement. Vous voyez, hein? Ça, je l'ai bien montré dans ma source intérieure. Bon, ce processus de dégradation est conjurable. D'abord, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience, hein? C'est pas par la connaissance, c'est-à-dire par la gnosis, par la gnose. Et puis par la volonté de revenir au commencement. Voici ce que dit l'évangile selon Thomas au Logion 18. Hein. Les disciples dirent à Jésus, dis-nous comment sera notre fin. Fin, F-I-N, c'est-à-dire ils sont dans la perspective eschatologique. Hein. Qu'est-ce qui nous attend, hein. Et Jésus leur répondit, avez-vous donc oublié le commencement pour que vous vous préoccupiez de la fin, car là où est le commencement, là aussi sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin, et il ne goûtera pas de la mort. Vous voyez, c'est remarquable ça, se tenir dans le commencement. Hein. Moi j'entendais autrefois quand j'allais à la messe, la formule liturgique en latin, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. C'est-à-dire, comme au principe, comme au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles, vous voyez. Hein. Eh bien, je ferai volontiers de cette formule mon mantra personnel, comme au début, comme au commencement.